silence.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Entre-deux-Mers, 98.4 FM, www.re2m.com. C'est l'heure de la conversation autour du cinéma avec Anne. Bonjour Anne.
Bonjour Damien. Oui, non mais je ris parce que je vois que tu es en pleine forme et moi ça me fait plaisir parce que je sais que tu es en pleine forme. Because nous retrouvons qui ? Ben nos petits chéris, nos auditeurs, on adore les retrouver, alors ça nous met en joie, Damien et moi, de vous retrouver. Voilà, bonjour, chers auditeurs, merci de nous recevoir chez vous. Et le pire, c'est que c'est vrai en plus, et c'est ça qui est le pire. Voilà, donc, on va commencer. Oui. Est-ce que tu as vu tous les films que j'ai mis de côté ? Qu'est-ce que tu en as pensé, toi, dans l'ensemble, Damien ?
Eh bien, que j'en connais pas beaucoup.
Voilà. Ben oui, mais c'est parce que, dis donc, tu étais tout petit. Si ça se trouve, même des fois, tu étais même pas né.
Eh bien, je suis né sur aucun. C'est ah ben, sûr voilà. Ça.
Ah ben, dis donc, moi, je suis pas né sur tous non plus. Et faut pas non plus. Attention, hein, y en a beaucoup. Pareil. Sauf que moi, je les connais parce que le cinéma m'a affolé très tôt. Quand j'étais très très jeune, j'avais un papa qui adorait le cinéma, qui m'emmenait, même quand j'étais petite, il m'emmenait au cinéma, et c'est lui qui m'a donné le goût du cinéma. Vraiment, merci mon papa, paix à son âme, mais merci à lui parce que c'est un cadeau qu'il m'a fait là, parce que c'est bien agréable d'aimer le cinéma et de, ça fait passer un tas de choses. Voilà, tout ce qu'on peut avoir dans la vie, tous les petits malheurs qu'on peut avoir, ou les grands malheurs aussi, ou les, voilà, ben, le cinéma fait passer tout ça. Ça aide en tout cas, beaucoup. Alors, merci à mon papa, encore une fois. Peut-être qu'il m'entend. Alors voilà, donc oui, ben, des films alors qui sont très beaux. Ce sont des films magnifiques.
Et on va commencer tout de suite en présentant le premier. Sorti en 1932, c'est un film de Fritz Lang, sûrement son plus connu, qui s'appelle M. le Maudit.
Oui, c'est son film le plus connu, tu as absolument raison, oui. Oui, Fritz Lang, qui est un énorme, un immense réalisateur, scénariste, producteur allemand. Il est américano-allemand, parce qu'après, il est parti aux États-Unis et il est devenu américain. Il est décédé en 1976, hein, il avait 85 ans. Donc lui, tu as dit le film 1932, c'est tout à fait ça, parce que lui, il a réalisé entre 1919 et 1960. Ça veut dire qu'il a beaucoup travaillé, Fritz Lang. Il a énormément réalisé beaucoup, beaucoup de films. C'est pas facile d'en trouver un parce que, enfin, moi, je sais pas, je les aime tous. J'aime beaucoup ce que fait Fritz Lang, enfin, ce qu'il a fait. Et c'est pas facile de choisir. Par exemple, en long métrage en 1919, il a 29 ans en 1919, il a commencé vraiment très très jeune, il a réalisé Madame Butterfly. Alors Madame Butterfly, c'est tiré d'un opéra, hein, c'est un opéra de Giacomo Puccini. Hein. Si on a des auditeurs qui aiment la musique, qui aiment l'opéra, ils connaissent forcément au moins un air de Madame Butterfly, parce que c'est un opéra extrêmement connu. Donc son Madame Butterfly, en fait l'opéra, lui, il a été présenté en 1904 à la Scala de Milan, et lui, en 1919, ben, il a réalisé ce film qui est très très beau. Si on arrive à le trouver, je crois qu'il est en DVD ou en VOD, je sais pas, Madame Butterfly, mais en DVD, oui. Et c'est donc, alors là, c'est d'après aussi l'histoire écrite aussi par un dramaturge, avant Puccini, avant que Puccini s'en empare pour son opéra, c'était l'écrivain John Luther Long qui avait écrit justement cette histoire très courte, qui lui-même était scénariste également, écrivain scénariste, il était même avocat aussi. Voilà, donc ça vient de lui aussi, c'est son histoire à lui aussi. C'était très, très très beau. Il s'est lancé vraiment avec 9 ans dans un truc quand même pas très facile, parce que l'histoire de Madame Butterfly est assez compliquée. C'est un peu triste aussi quand même. Mais c'est une très belle histoire, mais c'était pas évident quand même pour un premier long métrage. Ça m'a semblé un peu. Bah, il aimait ça. Je pense que Fritz Lang aimait les défis. De toute façon, c'est quelqu'un qui a toujours été comme ça. On verra pour M le maudit d'ailleurs aussi. C'était très compliqué de réaliser ce film. Il a également réalisé les araignées. Alors les araignées, c'est l'histoire d'une organisation mafieuse. Ouais, il a beaucoup combattu ça aussi, hein, justement. Tous les mauvais, tous les méchants. Il a fait beaucoup de films sur eux. Le métis aussi, Der Herr, Der Liebe, le gentleman de l'amour, ça commençait un peu à se romancer. Et puis 1920, 21, 22, 23, il a enchaîné les longs métrages. Et là, il n'a pas arrêté, vraiment. C'était 1934, Lilium. Lilium, c'est avec Charles Boyer, il y avait Florel, Roland Toutain. Ce sont des noms qu'on connaît quand même, Charles Boyer, si on aime le cinéma, si on a l'habitude quand même de voir des films, Roland Toutain aussi. Et voilà, d'ailleurs, j'en avais parlé de Charles Boyer. Il est né à Figeac, hein, Charles Boyer, mais comme il est parti aux États-Unis, il a fait toute sa carrière quasiment aux États-Unis. Il avait épousé d'ailleurs une Américaine. C'est une histoire un peu tristounette d'ailleurs, parce que Patricia, son épouse, quand son épouse est décédée, il lui a survécu quelques jours et il s'est suicidé, tellement il avait de chagrin. Ils ont vécu longtemps ensemble, hein, et voilà, le chagrin l'a complètement débordé et il est parti comme ça, Charles Boyer.
D'accord.
Eh oui. 1948, Le secret derrière la porte. Ça, c'est un thriller avec Michael Redgrave et Annabelle Shaw. Et puis, ça a très bien marché. Lilium a très bien marché à l'époque. Et Le secret derrière la porte également. Hein. J'ai juste pris des films comme ça qui ont bien marché là-bas. En 1953, c'était La femme au gardenia. D'ailleurs, le film a été repris en 2005. Alors, quand je dis qu'un film a été repris, ça veut dire qu'il est repassé dans des cinémas. C'est-à-dire que certains cinémas reprennent comme ça des films. C'est ça que ça veut dire, hein, quand on parle d'une reprise. Donc là, c'était en 2005, La femme au gardenia, très beau film, avec Anne Baxter et Richard Conte. C'était des acteurs très, très célèbres de l'époque et très doués également. Puis en 1955, Les contrebandiers de Moonfleet. Alors celui-là, je le recommande. Si vous pouvez le trouver, mes chéris, il est magnifique. Avec George Sanders, John Greenwood. Enfin, c'est un superbe film d'aventure. Évidemment, avec Fritz Lang aux commandes, c'est un petit chef-d'œuvre. Les contrebandiers de Moonfleet. Ah, celui-là est vraiment à noter. Et puis en 56, je voulais dire qu'il avait réalisé L'invraisemblable vérité, avec Dana Andrews et John Fontaine, qui a été repris en 2004 dans les cinémas. L'invraisemblable vérité. Voilà, donc là, et là, on est à M le maudit. Alors M le maudit, c'est une histoire terrible, c'est un film sur la pègre en Allemagne. Et c'est un chef-d'œuvre, hein, c'est considéré comme un chef-d'œuvre du cinéma. Et on dit de lui que c'est un réalisateur de génie quand même. Hein. C'est pas moi qui l'ai dit, je le pense, mais c'est pas moi qui l'ai écrit, ça. Alors, l'histoire de M le maudit, on va en parler un petit peu. Toute la presse ne parle que de ça. Le maniaque tueur d'enfants qui terrorise la ville depuis quelque temps vient de faire une nouvelle victime. Chargé de l'enquête, le commissaire Lohmann multiplie les rafles dans les bas-fonds. Gênée par toute cette agitation, la pègre décide de retrouver elle-même le criminel. Elle charge les mendiants et les clochards de surveiller chaque coin de rue. Eh oui, parce que la pègre, ils le font pas par humanisme, hein. Ils le font parce que ça gêne leurs affaires. Comme il y a des policiers un peu partout, que le commissaire Lehmann envoie un peu toute sa troupe un peu partout dans la ville, du coup, la PEG ne peut plus rien faire. Voilà pourquoi ils décident de trouver eux-mêmes l'individu et même de le tuer si possible, quoi, hein, parce que c'est leur but, d'assassiner ce tueur d'enfants. C'est vraiment, c'est quelque chose de, c'est un film extraordinaire absolument, surtout pour l'époque. C'est quand même 1932. Il fallait avoir un sacré estomac pour réaliser ce genre de film, surtout à moins de 30 ans. Alors dans les acteurs, on a l'acteur qui est devenu célèbre grâce à ce film, Peter Lorre. On l'a jamais oublié grâce à M le Maudit. C'est lui qui a le rôle du tueur d'enfants. Il est prodigieux, absolument. Là, le casting, il est sans erreur, ce casting, absolument. Il y a Otto Wernick qui fait le commissaire. On a Gustave. Enfin, c'était Grundgent. Enfin, c'était des acteurs de l'époque qui étaient très connus là-bas en Allemagne, hein. Theodor Loos aussi. Voilà, mais Peter Lorre fait une composition là, absolument extraordinaire. Il y a des gros plans sur lui, d'ailleurs. Par moment, on le voit en gros plan. Et c'est incroyable. Il joue avec ses yeux, son visage. C'est extraordinaire. M. le Maudit. Il faut l'avoir vu au moins une fois, ce film, quand même. Vraiment. Vraiment, hein. C'est fabuleux. La pègre qui cherche le criminel pour s'en débarrasser, quoi. Pour reprendre ses affaires, en fait. La pègre, c'est ça, hein. Ça dure 1h52. On peut le classer dans les policiers, dans les thrillers, même, hein, allemands. Il n'y a pas de scène d'horreur, hein. Il n'y a pas de sang, il n'y a pas de choses comme ça. C'est pire encore. Tout est sous-entendu, tout est et c'est fabuleux, quoi. C'est vraiment le chef-d'œuvre complet, total. M, le maudit. Alors le M, ça on le sait très très rapidement. C'est parce que ils arrivent. Il y a, je sais plus si c'est un clochard, enfin un gars de la pègre. Ils arrivent avec une craie. Quand ils le trouvent, quand ils savent que c'est lui, ils arrivent à écrire un M sur son dos, sur son manteau. À l'époque, les gens avaient des grands manteaux noirs là, c'était pas très 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 joli, mais c'était chaud, c'était pratique. Et avec la craie, ils marquent un M pour que tout le monde sache que c'est lui et qu'il puisse le coincer. Voilà pourquoi ça s'appelle M, le maudit.
D'accord.
Voilà. D'ailleurs.
La jaquette.
Ouais, voilà.
Et nous allons maintenant continuer avec un film sorti en 1936 qui s'appelle Pygmalion.
Ouais, Pygmalion. Ah, bon, c'est ce que c'est qu'un Pygmalion. Un Pygmalion.
Alors, rappelle-nous-le.
Eh ben, c'est quelqu'un, par exemple, qui va prendre un homme ou une femme à l'état brut, si j'ose dire, et qui va en faire un Superman ou une Superwoman, quelqu'un d'extraordinaire, de cultivé, d'intelligent, de beau, etc. C'est-à-dire qu'il va transformer quelqu'un à tout point de vue, c'est ça le Pygmalion.
D'accord. Voilà.
Il y a beaucoup d'acteurs d'ailleurs dont on dit, des femmes surtout, qu'elles ont eu un Pygmalion, c'est-à-dire quelqu'un qui les a transformés d'abord physiquement. Pour le cinéma, on a des exemples. Hein. Ben on a, par exemple, on a Brigitte Bardot. Son Pygmalion, c'était
Vadim.
Oui, tout à fait. On a qui on a aussi dans les Greta Garbo aussi qui a eu un Pygmalion. On a aussi comment elle s'appelle, l'Allemande, la extraordinaire là pour dans elle a été transformée pour le. Elle a commencé par le
Marlène Dietrich.
Oui, Marlène Dietrich, voilà. Et elle a été donc pareil, elle a été transformée physiquement parce qu'au début, elle n'était pas ce qu'elle est devenue après. Hein, elle n'était pas physiquement, elle était un peu plus boulotte, elle était plutôt brune, elle était voilà. Et son Pygmalion l'a transformée en Marlène Dietrich, qu'on connaît, magnifique, une femme magnifique, absolument. En fait, ils prennent ce qu'on a. Et puis il y a pas de chirurgie hein, dans tout ça, hein, aucune chirurgie esthétique, hein, aucune, il y a, c'est pas ça. Le changement, il est aussi culturel Et du coup, bon, il peut y avoir une couleur de cheveux qui change éventuellement. Il peut y avoir un régime. On met la personne un peu au régime si elle est un petit peu grosse, ou le contraire. Si elle est trop maigre, on peut aussi le, voilà, essayer de la faire grossir un petit peu. Mais il n'y a pas de chirurgie. Tout se fait comme ça, ça. Il y a le maquillage, il y a les vêtements aussi, la façon de s'habiller, la façon de marcher, la façon de se comporter. C'est ça aussi qui peut changer quelqu'un sans absolument s'en passer par la chirurgie esthétique. Ça n'a rien à voir. Hein. Le Pygmalion, non, il utilise autre chose. Mais au fond, en conclusion, c'est surtout la culture qui peut changer quelqu'un. C'est de le cultiver quand on a quelqu'un qui n'a pas de culture, le cultiver. Et avec cette culture, il va peut-être même lui-même apporter du changement sur sa propre personne. C'est ça aussi. Le côté magique. Voilà.
Donc alors, là, il nous parle de quoi, ce film?
Tu l'as dit, c'est 1938. Tu nous l'as dit, c'est une comédie, c'est de la romance, bien sûr. Ça dure 1h36. C'est une co-réalisation. Alors, on a Anthony Asquith, qui est un réalisateur scénariste, un acteur britannique. Lui, il est décédé en 68. Il avait 65 ans. Voilà, et puis on a Leslie Howard aussi. Leslie Howard, qui est l'acteur principal du film, a co-réalisé avec lui. Il s'est aussi occupé du scénario, Leslie Howard. Donc on va le voir tout de suite, lui d'ailleurs. Alors, cet Anthony Asquith, ce monsieur, a réalisé entre 1935 et 1964. C'est-à-dire presque, bah oui, c'est ça. Il est décédé en 68. Donc il a réalisé presque jusqu'au dernier moment, si on peut dire. Hein. Et bah là, alors qu'est-ce qu'on lui doit à cet homme-là? On lui doit en 1950 La femme en question. C'est un policier avec Dirk Bogarde, Hermione Baddeley. Alors Dirk Bogarde, on le connaît quand même. Hein. C'est un nom qu'on connaît, un nom de cinéma qu'on connaît, très grand acteur. 1964, c'est la Rolls Royce. Voilà, là, en deux mots, ça fait un peu la Rolls-Royce, et ça s'écrit en deux mots quand même, mais bon, jaune. C'est trois sketchs, en fait. Il est très réussi, celui-là, la Rolls-Royce jaune, vraiment. C'est trois sketchs, il y a Alain Delon, il y a Ingrid Bergman, il y a Rex Harrison, il y a... c'est son dernier, d'ailleurs, oui, c'est ça, 1964, la Rolls-Royce jaune, c'est son dernier long-métrage. Et puis, il y avait Shirley MacLaine aussi. Enfin, c'est un casting sans faute. Avec trois sketchs magnifiques. Là, et Leslie Howard, alors lui, c'est pareil, que bien qu'il ait le rôle principal, on va voir après, justement, dans ce film, il est réalisateur également, cet homme, il est acteur, réalisateur, producteur britannique. Et lui, il est décédé à 50 ans, il avait 50 ans quand il est décédé. Lui, là, je crois que c'est son cœur, il a des problèmes cardiaques. Eh oui. Et non, c'est pas lui le problème cardiaque. Non, c'est l'autre, Anthony Asquith. Voilà, à 65 ans, il a eu un problème cardiaque. Non, Leslie Howard, c'est beaucoup plus terrible que ça. Il était à bord d'un avion, c'était la guerre. C'était le vol BOAC et l'avion a été descendu. L'avion s'est écrasé. Il était dedans. Il avait 50 ans. Leslie Howard, c'était en 1943. Et c'est un grand acteur et ça, il y a eu un gros choc à l'époque parce qu'il était très très célèbre. Et j'ai lu quelques passages là-dessus et ça a été un gros choc là-bas, ouais. Ouais, voilà. Il a été abattu d'ailleurs par la chasse. Ouais, c'est un 777, c'est ça que j'avais. Ouais. Voilà. Et donc, il avait eu un prix, lui, à la Mostra de Venise en 1938, justement pour son rôle, la coupe Volpi, meilleure interprétation masculine. Et il a, lui, réalisé des films entre 1938 et 1942. Et donc, il a participé à la réalisation du Pygmalion. Ben oui, il a réalisé Spitfire, par exemple, en 1942. C'est une histoire, c'est l'histoire de la création de l'avion Spitfire. C'est R.G. Mitchell qui a créé cet avion-là, le Spitfire. Il a réalisé en 1941 Monsieur Smith, agent secret. C'était aussi. Alors, pour le situer, Leslie Howard, c'est lui qu'on voit dans Autant n'emporte le vent, qu'on a tous vu au moins une fois quand même, que ce soit au cinéma ou à la télévision, en 1939. Il joue le rôle d'Ashley, c'est-à-dire Scarlett, l'héroïne, est amoureuse d'Ashley, qui épouse sa cousine. Et ça fait toute une histoire. Mais c'est lui qui joue le rôle d'Ashley dans Autant n'emporte le vent, pour le situer physiquement. Voilà, c'est. Alors là, Pygmalion. Alors, Pygmalion. Pygmalion a eu, effectivement, il y a eu un Oscar pour Pygmalion, l'Oscar du meilleur scénario, également. Alors, c'est en 1939. Et c'est l'histoire d'un professeur en phonétique qui est célibataire endurci. Il s'appelle Henry Higgins. Il fait la connaissance de la jeune Eliza Doolittle, dont le langage le choque. Se transformant en Pygmalion, il décide de parfaire son éducation. Il a le rôle principal. C'est Wendy Hiller qui joue le rôle de la pauvre, pauvre petite qu'il faut absolument transformer. C'était le casting est très chouette, en fait. On a Wilfrid Lawson, on a Marie-Laure, on a Scott Sunderland aussi. C'était des gens très connus à l'époque, des acteurs très, très connus. Irene Brown. C'est un joli casting. Ils sont tous très, très bons là-dedans. Et le scénario est très soigné aussi. Ouais, très beau. Donc, c'est un très, très beau film. Pygmalion. Et ouais, Leslie Howard. Beaucoup de charme, Leslie Howard, le pauvre. Eh ouais. Il n'a pas eu de chance, lui, pendant la guerre.
Et nous allons continuer donc maintenant avec un film sorti juste avant la guerre, justement en 1939. Ouais. C'est un film qui s'appelle Intermezzo.
Intermezzo. Alors, je ne l'ai pas fait exprès parce que je cherchais des films qu'on ne voit pas souvent et qui sont très beaux. Et là, il se trouve qu'il y a Leslie Howard aussi dans le rôle principal. Mais ça n'est pas fait exprès. Il faut dire qu'à l'époque, c'était un très grand acteur et qui tournait énormément. Donc, c'était... Bon, voilà, ça s'est trouvé comme ça. Donc, Intermezzo, oui, c'est Grigori Ratov, qui est un réalisateur, producteur, acteur russe, qui l'a réalisé. Il dure 1h10. C'est une romance. Voilà. 1939, tu l'as dit. Il est décédé, lui, Grigori Ratov, en 1960. Il avait 63 ans. Alors, lui, c'est pareil. Il a réalisé de jolies choses. Il a fait aussi dans le film musical, Grigori Ratov. Par exemple, en 1946, c'est « Do you love me ?» C'est le titre du film. « Est-ce que vous voulez m'aimer ?» Je traduis. C'est un film musical avec Maureen O'Hara, la superbe actrice rousse qu'on connaît quand même. Quand on l'a vue au moins une fois dans un film, on se souvient d'elle. Harry James également. En 1949, « Cet âge dangereux », c'était une romance avec Myrna Loy et Roger Livesey. Alors c'est pareil, Myrna Loy, très très connue, grosse vedette de l'époque. Et puis, il a réalisé en 1960 Oscar Wilde avec Robert Morley, Phyllis Calvert. Alors, Oscar Wilde, j'en avais parlé ici, dans l'émission sur Radio Entre-deux-Mers. J'avais parlé de ce film, Oscar Wilde, d'ailleurs, qui est très, très chouette, très réussi, très, très, très réussi. Et oui, il n'a pas eu temps de. Il a réalisé, lui, Grigori Ratov, entre 1939 et 1960. Donc, il n'a pas eu temps de faire grand-chose, lui. Il avait des gros soucis de santé, Grigori Ratov. Et là, alors, c'est quoi Intermezzo ? Ah, c'est... j'ai lu dans les critiques une des meilleures histoires d'amour jamais filmées. Carrément, quand même. C'est une histoire d'amour très belle. Cette idylle douce et amère a pour vedette Ingrid Bergman, je voulais donner son nom, et Leslie Howard. Et ce film, moi, je l'ai regardé plusieurs fois. Je l'ai regardé souvent parce que j'ai la chance d'avoir le DVD que vous pouvez trouver pas cher du tout. Il est très beau, il est très agréable. C'est vraiment... mes deux acteurs comme ça, ce couple Ah oui, c'est vraiment. Ce sont des amants tourmentés dans ce film, forcés de choisir entre la passion et l'honneur. Alors, quand lui, il s'appelle, c'est un grand violoniste dans le film, il s'appelle Holger Brandt, violoniste renommé qui entend pour la première fois le professeur de piano de sa fille. Et évidemment, c'est Ingrid Bergman, le professeur de piano de sa fille. Il est immédiatement frappé par sa beauté et son talent. Ils tombent amoureux, tous les deux. Et Holger quitte sa famille pour vivre avec elle. Mais il ne lui faut pas longtemps pour se rendre compte combien sa femme et sa fille lui manquent. Et il se fait beaucoup de soucis pour la peine qu'il leur a causée. C'est ça, la passion et l'honneur. Ça, c'est l'honneur. Surtout à l'époque, hein. Quand même, il faut se reporter à l'époque. L'histoire se passe donc dans les années 39-40. Quand on quittait sa famille pour partir avec une maîtresse ou avec un amant, c'était quelque chose de très compliqué. Hein. On a, de nos jours, je pense que c'est plus facile. Je ne sais pas, hein, je n'ai pas expérimenté. Mais chérie, ce n'est pas ça. Mais je pense que c'est quand même plus facile qu'à cette époque-là. Surtout qu'il était très connu, lui. C'est un violoniste très connu, donc, dans l'histoire. Et ce qui fait que tout le monde le sait, quoi. Tout le monde sait qu'il a quitté sa famille pour partir avec son amoureuse, son amante. Alors, on a donc Leslie Howard, grand pianiste, Ingrid Bergman. On a Edna Best. On a John Hallyday. Attention, hein, c'est pas Johnny Hallyday, c'est John Hallyday. Il y a un acteur qui a ce nom. Absolument, c'est John Hallyday. Eh oui. Cecil Kellaway, on a Enid Bennett, on a Anne Hittold et on a Douglas Scott dans les rôles principaux. Des gens très, très connus, tous connus à l'époque. D'ailleurs, c'est marrant parce que quand on le regarde, si on a l'habitude d'avoir des films de cette époque-là, il y a des visages qu'on reconnaît. Pas les noms, bien sûr, mais les visages, oui. On les a vus dans d'autres films. Voilà. Ça dure quand même, je l'ai dit, 1h10, oui. C'est une histoire très belle, c'est un très beau film. Ah oui. Un couple un peu magique quand même, on a beau dire. Hein. Ingrid Bergman et Leslie Howard. Et il est en noir et blanc, en fait, hein, ce film. Et Pygmalion également, hein, je ne l'avais pas dit, je pense. Mais ce sont des noirs et blancs, ainsi que M le maudit. Ce sont des films en noir et blanc. Enfin, M le maudit en couleur, de toute façon, ce ne serait pas possible. Peut-être qu'en noir et blanc, en fait. Voilà pour Intermezzo de Grégory Ratoff.
Très bien. Et maintenant, ça va être un film sorti en pleine guerre, donc en 1941, de Ernest Lubitsch.
Oui.
Qui s'appelle Illusion perdue.
Illusion perdue. Ah là là, les illusions perdues. Oui, c'est Ernst Lubitsch, qui est réalisateur, scénariste, producteur. Il est pareil, hein, il est comme Fritz Lang. Il était d'abord allemand, il est devenu américain. Donc, il a les deux nationalités. Moi, je dis américano-allemand. Voilà. Et lui, il est décédé en 1947. Il avait 55 ans et lui, c'est aussi une crise cardiaque d'ailleurs, comme je disais tout à l'heure pour le réalisateur Anthony Asquith. C'est pareil, c'est une crise cardiaque. Ah oui, 55 ans, c'est quand même, hein, Ernst Lubitsch, qui était un très grand réalisateur, il nous aurait certainement réalisé encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de très beaux films. Ce film, Illusion perdue, a été repris en 2006. Alors lui, quand même, c'était en 1915, oui, c'est ça, et il a terminé donc en 1947, juste, d'ailleurs son dernier film, c'est au moment où il a eu sa crise cardiaque, il était en train de réaliser son dernier film. Donc en fait, il a réalisé pendant 30 ans, Ernst Lubitsch, comme il a commencé très tôt, une cinquantaine de films quand même, hein. C'est peut-être ça aussi, l'histoire de son cœur. Il a beaucoup, beaucoup, beaucoup travaillé, cet homme-là. Et il y a beaucoup de stress, hein, sur quand on réalise un film, réalisateur. Il y a l'histoire de la production avant, déjà, trouver le producteur. Ensuite, il y a des stress pendant les tournages. Et peut-être qu'il avait le cœur fragile dès le départ, d'ailleurs. Donc, en 1943, il a réalisé « Le ciel peut attendre ». C'est une qui a été repris, d'ailleurs, en 2018. avec Jean Tierney et Don Amesh. Alors celui-là, c'est pareil, c'est un petit film délicieux. C'est délicieux, le ciel peut attendre. Ça se regarde comme ça, voilà. D'un bout à l'autre, on est là dans le film, et dans cette famille-là. C'est un très, très joli film. 1940, ah oui, c'était juste avant ça, oui. C'est Ninotchka. Ninotchka, c'est une comédie romancée avec Greta Garbo et Melvin Douglas. Très beau casting, ça. 1934. Ah oui, j'en avais noté un avant. Avant Le ciel peut attendre, c'est La Veuve joyeuse. C'est une comédie musicale avec Janet McDonald et Maurice Chevalier. Oui, Maurice Chevalier aussi a fait une sorte de carrière aussi aux États-Unis quand même, hein. Il en a fait une en France et une aux États-Unis aussi comme acteur. Et puis 1945, c'est Scandale à la cour avec Anne Baxter et Charles Coburn. C'est une comédie dramatique très, très chouette aussi. Bon, Ernst Lubitsch, de toute façon, je crois que c'est un réalisateur qui ne savait pas faire de navets, en réalité. Voilà. Chaque fois qu'il réalisait un film, c'était une réussite. Ouais, ça existe, hein, des réalisateurs qui ne savent pas faire de navets. Alors, c'est l'histoire. Alors, l'histoire d'Illusion perdue. Bill et Larry Baker. C'est Gilles, parce qu'elle s'appelle Gilles. Gilles et Larry Baker forment le couple parfait, malgré les crises de hockey à répétition de Gilles. Eh oui, l'héroïne a une crise de hockey au début du film. Dans la salle d'attente du médecin, elle rencontre le séduisant pianiste Alexander Sebastian et leur cœur s'emballe. Mais Larry n'a pas dit son dernier mot. Eh ben oui. Et là, c'est pareil, on a un casting formidable avec Merle Oberon, Melvin Douglas, eh oui, encore lui, c'était une grosse vedette, Burgess Meredith, Alan Mowbray, c'est ça, Eve Arden, Harry Davenport, qui était très connu aussi, très célèbre à l'époque. Ah ben, Merle Oberon, oui, c'était une très, très grande actrice de ces années-là. Très grande vedette. Illusion perdue. Nominée aux Oscars en 1942. Puis elle a eu aussi, ils ont eu le prix de la meilleure musique aussi. Ouais. Voilà. Très beau film, Illusion perdue. Pareil, si on a un petit peu de vague à l'âme, on regarde Illusion perdue, vous le trouvez en DVD, hein, vraiment facilement. On regarde Illusion perdue, ça remet les idées en place. Le vague à l'âme, hop, disparaît. Petit à petit, en regardant ce film, mais oui, qui dure 1h24. La vraie comédie, vraiment très, très, très chouette, avec des acteurs tout à fait au top. Illusion perdue. Et ensuite, on s'en va ? On va où alors après ? Ah !
Ensuite, on part du côté, je sais pas de
britannique,
quel...
du côté britannique,
c'est ce qui me semblait, avec un film de 1944 qui s'appelle Jane Eyre.
Jane Eyre, oui, Jane Eyre, qui s'est tiré d'un roman quand même, ça, Jane Eyre, de Charlotte Brontë, les sœurs Brontë qui écrivaient et qui avait écrit donc Jane Eyre. C'est une histoire très très belle, Jane Eyre. Et alors ce Jane Eyre là. Ce Jenner là, de 1944, est beaucoup moins connu. Il y en a eu d'autres. Hein. Il y a eu deux, trois films parlant de Jenner, justement. Et celui-là est beaucoup moins connu. Je suis ravie de l'avoir trouvé pour vous, mes chéris. Il dure 1h36. Alors, c'est du drame, c'est de la romance. Il a été repris en 2012, ce film. Il est de Robert Stevenson, qui est un réalisateur, scénariste, acteur britannique. Ce monsieur est décédé en 1986, il avait 81 ans. Il a réalisé donc entre 1932 et 1976. Il a eu des nominations d'ailleurs dans sa carrière, pas mal. Ah ben, on lui doit alors de très beaux films, par exemple en 1937, Les Mines du roi Salomon. On revient encore à Salomon. Vous allez penser que je suis complètement baba ou je sais pas, je suis fan du roi Salomon, parce qu'on J'en parle assez souvent dans les films. C'est vrai que c'est un homme assez fascinant, le roi Salomon. En tout cas, là, c'est les mines de roi Salomon. C'est un film d'aventure avec Cédric Hardwick et Anna Lee. Et c'est vraiment très, très beau. Ah oui, les mines de roi Salomon. En 1941, on a Blackstreet. Il a réalisé avec Margaret Sullivan et Charles Boyer. On revient à Charles Boyer, vous voyez. En 1957, c'est Fidèle Vagabond. Alors ça, c'est un... Il faut savoir que Fidèle Vagabond, donc ça parle d'un chien, évidemment, on s'en doute un peu hein, avec ce titre. Eh bien, c'est un classique outre-Atlantique pour les fêtes. Mais actuellement, il se passe ça pour les fêtes au même titre que Mary Poppins, par exemple. C'est-à-dire, c'est une amitié, ça, Fidèle Vagabond, entre un fermier texan et un chien errant. Eh bien, là-bas, c'est la folie pendant les fêtes, outre-Atlantique. Il se passe ça et Mary Poppins, éventuellement. C'est marrant, ça, quand même. Hein, il est très beau, Fidèle Vagabond. Oh, c'est une jolie histoire. Voilà, bon, ben, c'est... Et alors, là, j'ai appris, en lisant un tas de petits trucs sur ce film, que c'était le film préféré de Walt Disney. Il adorait ce film. Ouais, ouais. Il paraît qu'il se le faisait passer régulièrement. Parce qu'à l'époque, il n'avait pas le lecteur de DVD, mais il se faisait passer le film. Chez lui, il avait une petite salle de cinéma. Il se faisait passer le film régulièrement. Eh ouais. Fidèle Vagabond. C'était quand même... il y avait Dorothy McGeer dedans, des gens connus à l'époque. Fess Parker, Tommy Kirk. Et en 1962, Robert Stevenson, puisqu'on parle toujours de lui, le réalisateur, il a réalisé Les Enfants du Capitaine Grant. Ah, qui a eu beaucoup de succès aussi, ce film. Hein. Il a vraiment très bien fonctionné à l'époque, avec Maurice Chevalier, et George Sanders. Ah oui, Maurice Chevalier, on est content de le revoir comme ça, Maurice Chevalier. En 1968, entre 1968 et 1974, Robert Stevenson a mis en vedette Choupette, la coccinelle. L'histoire de la coccinelle qui s'appelle Choupette. En fait, c'est une Volkswagen, hein, la fameuse coccinelle Choupette.
C'est ça.
Et il y a un amour de coccinelle, il y a un nouvel amour de coccinelle. Enfin, bref, mais ça, celui-là... Ah, ben, mes chéris, si vous avez des enfants qui vont... Oh, ça peut aller jusqu'à 14 ans, je pense. Alors, le minimum, il n'y en a pas. Jusqu'à 14-15 ans, s'ils sont encore restés un peu rêveurs. Oh, il faut leur trouver ces films-là. Trouvez-leur les films sur Choupette, la coccinelle. Ils vont adorer. C'est joli, c'est fantastique, c'est joli comme tout. Il y en a trois. Hein. Il y a Choupette la coccinelle, un amour coccinelle et un nouvel amour de coccinelle. Ah oui, ça a été des grands succès. Hein, la coccinelle, ça a très très bien marché, vraiment quoi. Ah oui, ouais ouais. Voilà donc voilà ce que sait faire ce monsieur Robert Stevenson et là il nous a fait Jenner, pas rien à voir avec la coccinelle mais c'est un très très beau film. Ah oui, alors là Jenner, certains ont peut-être lu déjà le roman ou ont peut-être vu les autres films, il y en a eu d'autres. Je crois qu'il y a eu des téléfilms aussi, un ou deux téléfilms sur Jenner. C'est un chef-d'œuvre, hein, c'est ce roman. Le roman est un chef-d'œuvre hein, qui a été justement, c'est ce que je disais, souvent adapté au cinéma. Voilà. Alors moi je l'ai trouvé. J'ai eu du mal à la trouver hein, cette version-là parce qu'en fait, elle est généralement considérée celle-là comme la meilleure par rapport au roman. Voilà. Alors. Ça se passe à l'époque en Angleterre, après une enfance difficile, passée dans un terrible orphelinat, Jenner est engagée comme gouvernante de la petite Adèle Rochester chez Edward Rochester, qui est le père de la petite Adèle. C'est le maître des lieux, hein, c'est un château, hein, ils vivent dans un château. C'est un personnage solitaire, Edward Rochester, ombrageux également. Il erre dans cette immense demeure constamment, voilà, on le voit d'ailleurs, on le voit au début du film. Mais il ne tarde pas à tomber amoureux de la jeune femme. Mais Jen découvre que le domaine abrite un terrible secret, dont on ne va pas parler là, évidemment. Mais il y a un gros secret, oui. Oula, un secret terrible. C'est vraiment... Alors évidemment, si je vous dis que c'est Orson Welles qui a le rôle principal, le rôle de Monsieur Rochester, là, on comprend pourquoi cette version passe pour la meilleure. Et alors elle, c'est Joan Fontaine, très très grande actrice également. C'est elle dans Rebecca, hein, d'Hitchcock par exemple, c'est elle, Joan Fontaine, hein, qui joue dans Rebecca, qui a le rôle principal. Elle a beaucoup joué avec Cary Grant aussi, Joan Fontaine. Hitchcock l'a fait tourner parce que c'était le type, physiquement, c'était le type de femme qu'il aimait comme actrice. C'était d'un... Voilà, donc il y a, alors on a dit Orson Welles, Joan Fontaine, il y a Agnès Moret, qui est aussi dans Rebecca d'ailleurs. La vilaine, la méchante qui brûle le château à la fin, c'est elle. C'est Agnès Moret qui est... On a Edith Barrett, on a Henry Daniel, on a John Sutton, on a Peggy Ann Garner. Alors Peggy Ann Garner, c'est Janer enfant dans le film. C'était une petite fille qui avait beaucoup de talent. Elle joue très très bien. Enfin, ils sont tous excellents. Il n'y a rien à dire. Voilà. C'est quand même... Et celui-là, ben, vous voyez, hein, c'est celui qui respecte le plus le roman et qui est certainement la meilleure version. Par rapport au roman de Charlotte Brontë. Et ouais. Il y a une, d'ailleurs, c'était dans les, c'était titré une ambiance gothique à couper le souffle. Ah oui, et une œuvre magistrale aussi. Très 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 beau film. Si vous le trouvez, vous pouvez le trouver en DVD. Je l'ai trouvé moi, pas cher, hein. Mais il faut le chercher parce que il y en a eu d'autres. Alors il faut prendre celui où Orson Welles a le rôle principal. Orson Welles, Joan Fontaine. C'est celui qu'il faut trouver, mes chéris. Si vous aimez cette histoire, si vous la connaissez déjà, si vous connaissez le roman, ou même si vous ne la connaissez pas, et si vous voulez regarder ce film, alors en VOD, peut-être qu'on peut le trouver aussi en VOD. Je sais pas, Damien, j'ai pas trop vérifié cette version de 1944. Je sais pas. Si on peut, mais sinon en DVD, oui, il y a aucun problème là. Et c'est la meilleure version, bah évidemment, avec des acteurs comme ça aussi. Et puis Stevenson quand même, oh là là, avec tout ce qu'il a fait. Puis n'oubliez pas la coccinelle, hein, pour les jeunes là, chez vous là.
Choupette,
la coccinelle, c'est magique. Elle fait des choses extraordinaires. Ah, oh, les enfants adorent. Bah oui, là-bas, les Britanniques ont adoré. Il n'y a pas de raison qu'on n'adore pas, quoi. La coccinelle. Eh oui. Sacré Volkswagen. J'en ai cherché une, je n'ai pas trouvé. Hein. Les Volkswagen qu'on nous vend, elles sont ordinaires. Hein. Elles ne font pas tout ça. Bah ouais, pas de choupette. Ça ne se vend pas. Je plaisante, bien sûr.
Et maintenant, donc, on se retrouve juste après la guerre, en 1946,
oui,
avec un film de John Huston qui s'appelle Le Faucon Maltais, également issu d'un livre.
Ah oui, tout à fait. Ah ben oui. Ah ben voilà, c'est bien. Voilà, tu vois. Oui. Ben tu as lu le roman ou tu as vu le film, toi?
Aucun des deux.
Aucun des deux.
Mais je connais le nom.
Tu connais le nom? Ah ben c'est bien. Oui, Le Faucon Maltais, oui, 1946, c'est ça, 1h40, c'est un drame, un thriller, et c'est de John Huston. Oh là là, c'est presque gênant de présenter John Huston, parce que c'est pareil, c'est un nom qui est tout en haut là, de toutes les étoiles là, du cinéma, hein, tous ces grands réalisateurs. Ah, oh, bah, John Huston, réalisateur, scénariste, acteur, et oui, il a joué aussi dans certains films, pour le plaisir d'ailleurs, américain. Et lui, il a eu beaucoup de prix, hein, beaucoup de prix, beaucoup de nominations. Il est décédé en 1987, il avait 81 ans. En fait, depuis quelque temps, il était mal fichu. Il aurait pu vivre beaucoup plus vieux parce qu'il était d'une constitution quand même assez robuste. Puis un jour, il a attrapé une pneumonie. Voilà, c'est à la suite d'un emphysème. Enfin, c'est sur la fin comme ça. Enfin, les 3-4 dernières années où il a chopé ça. Voilà, et du coup, ben, il a dommage parce que il aurait certainement continué à réaliser encore. Ah ouais, mais c'était un sacré bonhomme quand on le voit physiquement, hein, quand même. Hein. C'était pas un petit gringalet, hein, John Huston. Ah oui, il a réalisé donc entre 1941 et 1987, c'est bien ce que je disais, jusqu'au bout, quoi, hein, jusqu'au bout. Alors, ben justement, on lui doit en 1948, par exemple, le trésor de la Sierra Madre avec Humphrey Bogart et qui y avait Holt, je sais plus qui y avait avec lui, parce que comme il a le rôle principal, on ne voit que lui dans ce film. Il est assez extraordinaire. C'est quand même, c'est de l'aventure, hein, c'est du drame et de l'aventure, le trésor de la Sierra Madre. Mais je crois qu'il est passé quelquefois à la télévision sur certaines chaînes. On l'a vu ce film, pas très souvent, mais 1951, il nous réalise La Reine africaine, qui est, alors celui-là est tordant. Il est très drôle en fait. C'est de l'aventure, il y a la guerre et tout, mais c'est de la romance, mais en même temps, il y a des moments très drôles. La Reine africaine avec Katharina Hepburn et Humphrey Bogart. Eh oui, Humphrey Bogart tournait énormément à l'époque. Hein. C'était la super grosse vedette et Katharine, Hepburn, pareil. Hein. C'était une très très grande vedette de l'époque. La Reine africaine. Ah oui, c'est superbe, il est superbe ce film. 1956, c'est Moby Dick. Ah, on en a déjà parlé, on a parlé de Moby Dick ici à l'antenne, là, sur Radio Entre-deux-Mers dans l'émission. Il y a quelque temps, on en a parlé. Moby Dick avec Gregory Peck et Léo Gene. Et en fait, Moby Dick, c'est l'histoire de la. C'est pareil, c'est tiré d'un roman. C'est l'histoire de la baleine, la fameuse baleine. Gregory Peck est capitaine d'un bateau et un jour il est attaqué par Moby Dick, enfin il l'appelle après Moby Dick, il est attaqué par une baleine qui lui broie sa jambe, une de ses jambes. Il va rester d'ailleurs avec une jambe en bois, parce qu'à l'époque, hein, c'était des jambes en bois, à l'époque de l'histoire, je veux dire. Hein. Et donc il va la poursuivre, il n'a pas réussi à la tuer. Elle s'est enfuie et il va la poursuivre pour la tuer, pour se venger. Il va la poursuivre pendant des années. Moby Dick. Alors, je ne dis pas la fin, hein, parce que, voilà, si vous le voulez, vous le trouvez, hein, en VOD, ça c'est sûr, et puis en DVD également, Moby Dick. Et puis 1960, j'en ai déjà parlé aussi, Les Désaxés. Il a réalisé Les Désaxés, The Misfits. Ça, c'est le titre anglais, avec Clark Gable, Marilyn Monroe, Montgomery Clift. Eh oui, alors ça, c'est ouf. Ça, c'est le trio extraordinaire. Quel casting, quand même, Les Désaxés. Et c'est drôle parce que, en fait, enfin, c'est drôle. En fait, c'est quasiment. Bah, c'est le dernier film, d'ailleurs, de Clark Gable. Puisque quelque temps après, il est mort d'une crise cardiaque, après ce film Les Désaxés. Et Marilyn Monroe n'a fait qu'un. Elle a eu un tournage après, mais on verra, on en parlera sûrement, mais qui est devenu un court-métrage parce qu'elle est morte pendant le tournage. Donc on peut dire que son dernier long-métrage à Marilyn Monroe, c'est justement Les Désaxés. Et c'est un film extraordinaire, mais vraiment, vraiment, alors là. Et où Marilyn Monroe et Clark Gable forment c'est pas vraiment un couple, mais c'est quand même un couple aussi. Enfin, on verra à un moment donné, je peux pas vous raconter l'histoire. Et Montgomery Clift, vraiment tous les trois, on est fascinés par ces acteurs. On est complètement fascinés. L'histoire est extraordinaire aussi. Puis en 1982, John Huston, eh bien, il a réalisé une comédie musicale très plaisante qui s'appelle Annie, avec Eileen Quinn et Albert Finney, qui est un grand acteur aussi, on connaît. Alors Annie, c'est pareil, c'est pour les parents, pour la famille, c'est pour les jeunes. C'est très joli, elle est très belle cette comédie musicale, sortie en 82, qu'on trouve en VOD facilement, ainsi qu'en, pardon, en DVD. Donc, le Faucon Maltais. Ah, on va revenir sur cette histoire. C'est l'histoire, ben justement, de Sam Spade et Miles Archer, qui sont deux détectives privés. Au cours d'une enquête, Miles est assassiné. Sam soupçonne Brigitte, c'est non, c'est Brigitte, oui, c'est ça, qui les avait dirigés sur l'enquête. Il la soupçonne. Mais cette dernière, qui fascine Sam par sa beauté et son argent, lui demande de l'aider. Et il accepte. Voilà. Donc son pote est assassiné. Il soupçonne une femme qui s'appelle Brigitte et elle lui demande de l'aide. Et il va l'aider. C'est une histoire, c'est une très belle histoire, le Faucon Maltais, en fait. Hein. C'est quand même... Humphrey Bogart, qu'est-ce qu'on peut dire ? Il est parfait, comme toujours. Eh ouais. Et le Faucon Maltais, d'ailleurs, c'est une statue, une petite statue, qui a l'apparence d'un faucon. Faucon Maltais.
Très bien. Donc, le Faucon Maltais. Oui. Et on va terminer... aujourd'hui, avec un film sorti en 1957 qui s'appelle Le Grand Chantage.
Oui, ça s'appelle Le Grand Chantage. Alors, Le Grand Chantage, 1957, tu viens de le dire, ça dure 1h36, c'est en noir et blanc et c'est un drame. Alors, c'est beaucoup plus proche de nous, déjà, un petit peu. Enfin, si on peut dire, disons que ça se rapproche par rapport aux autres films qu'on a cités. Le Grand Chantage, c'est d'Alexander McKendrick, qui est un réalisateur, scénariste, auteur américain. Lui, il est décédé en 1993, il avait 81 ans, exactement comme John Huston, le même âge, 81 ans. Ah oui, je viens de réaliser ça. Il a réalisé cet homme-là, Alexander McKendrick, entre 1949 et 1967. 67, ouais, c'est ça. Et oui. Lui, c'est pareil, il a eu des soucis de santé. Et puis après, il s'est arrêté, en fait. Hein. Il a arrêté la réalisation en 67. Alors, on lui doit, par exemple, la comédie en 1951, L'homme au complet blanc, avec Alec Guinness et John Greenwood. En 1956, ah oui, Tueur de dames, avec Alec Guinness encore, qui est une grosse vedette à l'époque. Frankie Howard, c'est une comédie, c'est policier aussi. Ah, c'est magnifique, Tueur de dames. Mais vraiment, c'est pareil. Et c'est plein d'humour, il y a beaucoup d'humour dans ces films-là. En 1961, ah, ben celui-là, on connaît le titre, Les Canons de Navarone. Il a réalisé, eh oui, qui dure 2h38 quand même, hein, celui-là, avec Gregory Peck, David Niven... Anthony Quinn, ah ben celui-là est repassé quand même assez souvent hein, sur les chaînes cinéma ou sur les chaînes ordinaires au moment du cinéma. On l'a revu quand même, Les Canons de Navarone. Et puis en 67, Comment réussir en amour sans se fatiguer ? Ça, c'est le titre, un titre très long comme ça, voilà, avec Irène Papas et Gia Scala. Irène Papas est une grande actrice grecque. Qu'on a connu à une époque, mais elle a arrêté le cinéma, je ne sais pas, assez rapidement, je ne sais pas pourquoi. Elle est, en tout cas, on la voit avec Yves Montand dans le film Z, Irène Papas. Elle est dedans, là, dans ce film. Là, alors, Le Grand Chantage. Mais oui, Le Grand Chantage. Alors, il s'agit de quoi ? À New York, un minable agent publicitaire, Sidney Falco, sert d'informateur au tout-puissant éditorialiste du journal Le Globe, Gigi Hunsaker. Il le hait et il l'envie à la fois. Celui-ci le charge d'une basse besogne. Brisée par un scandale, l'idylle nouée entre sa propre sœur, Suzanne, et un jeune guitariste, Steve Dallas. Après un premier échec, Falco parvient à ses fins, moyennant chantage. C'est un sacré film. Alors, on a quand même dans ce film, on a Burt Lancaster, Tony Curtis, Martin Milner, Suzanne Harrison, c'est pareil, c'est un très beau casting. Et il y avait à un moment donné, ça avait été titré Burt Lancaster et Tony Curtis sont terrifiants de cynisme. Ils sont extraordinaire, évidemment, c'était de grands, grands, grands acteurs qui savaient tout faire. Et là-dedans, ils sont vraiment... ils sont extraordinaires, quoi. C'est vraiment... voilà. Et c'est à travers la relation, cette relation qui lie un agent, qui lie un agent publicitaire et un journaliste sans scrupules, prêt à tout. Hein. Il est prêt à tout pour arriver au succès, quoi. C'est terrible, les gens comme ça. Ils existent, ces gens-là, hein. Il existe. Et là, Alexander McKendrick a dressé un portrait au vitriol hein, du monde du journalisme et de la corruption qui gangrène les rues de New York. Alors évidemment, les interprétations sont tellement exceptionnelles que voilà. Ça a été un grand classique, c'est un grand classique du cinéma qui a eu beaucoup de succès. À voir absolument. Absolument. Il faut la voir dans ses films, celui-là aussi. Ah, le grand chantage. Ah,
Et c'est un peu ce qu'on vous propose toutes les semaines, hein, cette période de cinéma fermé. Des films qu'il faut avoir soit dans sa filmothèque, soit dans la liste de films à voir absolument.
Ah oui, tout à fait, oui.
Donc n'hésitez pas à voir tous ces films et à retrouver les podcasts sur le www.re2m.com pour retrouver les listes de films proposées par Anne. Et normalement, à partir du 19 mai prochain, les cinémas devraient rouvrir. Donc on vous tiendra au courant quand ça sera sûr. Et on vous proposera de nouvelles sorties, des films qui sortent, qui sortiraient peut-être. Qui auraient dû sortir depuis un an.
Oui.
On va voir ça.
On ne sait pas trop ce que ça va donner encore. On fait un petit vœu quand même. Hein. Pour que ça se fasse, pour que les cinémas rouvrent, pour que nos cinémas de proximité, nos chers cinémas de proximité, que nous aimons tellement, vous le savez, mes chéris, pour qu'ils puissent reprendre leur activité, pour que vous puissiez retourner dans les salles que vous aimez, là, pour voir les films que vous avez choisis. Alors, on essaiera de voir. Il va falloir quand même que je me documente sérieusement pour savoir ce qui va passer, ce qui va sortir comme film exactement. Ça va pas être évident. Et surtout pour les cinémas, d'ailleurs. Hein, parce qu'avec les distributeurs, ça va être très, très compliqué. Moins sans doute pour les grands cinémas immenses, là, qui ont 15 000 salles et beaucoup d'argent et qui pourront probablement, eux, avoir les films qu'ils souhaitent. Mais pour les cinémas à proximité, ça risque d'être un petit peu compliqué au départ. Mais moi, je suis sûre qu'ils vont s'en sortir. Parce que leur but, effectivement, c'est de vous recevoir, c'est de vous revoir dans leur salle et que vous soyez, contents. Du film que vous avez choisi. Donc, ils vont faire tout ce qu'ils vont pouvoir pour avoir des films intéressants, récents. Et voilà, ils s'y mettent déjà, d'ailleurs. Ils y sont déjà. Ils sont déjà sur le pont, si j'ose dire. On en connaît quelques-uns et ils sont déjà au travail hein, pour défendre leur cinéma et la qualité des films qu'ils vont passer. Voilà, et que vous irez voir. En attendant, on continue quand même à vous parler de films, de très beaux films que vous pouvez voir, avoir en VOD, les louer ou alors acheter les DVD. C'est vraiment pas des films, c'est des DVD à des prix tout à fait modestes hein, et que vous pouvez avoir chez vous. Et voilà. Et puis quand ça va pas ou le contraire, quand vous avez vraiment envie de voir un film parce que tout va bien, vous en choisissez un dans tout. Les films dont on vous parle, de toute façon, si vous n'avez pas suivi l'émission, vous avez les podcasts hein, pour retrouver les titres de films. Donc, il n'y a pas de souci. Voilà. En tout cas,
c'est ça.
En attendant, bon cinéma quand même si les salles sont encore fermées. Mais il n'empêche que vous pouvez quand même, vous qui aimez le cinéma, vous pouvez quand même en regarder, en choisir. Et puis, bonne semaine hein, vivez heureux, soyez heureux, voilà. Profitez encore de la journée hein, pour l'instant. Carpe diem toujours. Hein. Oh oui, encore un peu. Carpe diem. Pour l'avenir, on verra un peu plus tard. Hein. Voilà. En tout cas, n'oubliez pas que je vous aime. Bisous, bisous.
Silence. Thank you.
aux yeux, tu sais.